Les grosses têtes. Le livre du jour.
Le livre du jour est signé Étienne Guéraud, s'appelle L'élève et le maître. Et ça sort aujourd'hui d'ailleurs. Essai sur l'épanouissement artistique. On va en parler avec lui dans un instant. Et à un moment donné, dans son livre, il rappelle quand même qu'il y a des artistes qu'on peut continuer à admirer pour leur talent musical ou de compositeur ou d'harmonie. C'est un mot d'ailleurs qu'on essaiera de décortiquer avec lui dans un instant. L'auteur de ce livre qui s'adresse avant tout aux musiciens, mais à tous les artistes en général. Et il donne la liste de ces artistes, des grands noms de la chanson française qui ont travaillé avec d'illustres arrangeurs, que ce soit Brel, Reggiani, Michel Jonas, qui ont travaillé avec Legrand, avec Gabriel Yared. On en parlera, tiens, d'ailleurs, de Gabriel Yared aussi avec Clémentine Célarier dans un instant. Mais il donne aussi deux figures américaines importantes à ses yeux, deux stars américaines incontournables dans le monde de la musique. Et c'est ces deux noms, évidemment, que je vous demande de retrouver.
Quincy Jones.
Alors, Quincy Jones, bravo. Ah, et l'autre, alors, celui qui a travaillé avec Quincy Jones.
Michael Jackson.
Et Michael Jackson. Excellente réponse. Bonjour Étienne Guéraud.
Bonjour Laurent.
Vous voyez, c'est pas surprenant. Hein. Tout de suite, ils ont trouvé les deux noms et ça me fait plaisir. D'ailleurs, en premier, Quincy Jones plus que Michael Jackson. Mmh. Pourquoi ces deux noms-là, alors, parmi les vedettes internationales?
Oh, parce que dans ce chapitre-là, en fait, je parle du fait que ce sont des figures importantes, surtout. Je parle beaucoup de l'IA et de la médiocrité qui déferle. Et c'était une époque où on a pu conjuguer l'exigence et en même temps la musique populaire. C'est ça qui me plaît chez Quincy Jones. C'est qu'en même temps, c'est une légende. Il a gagné beaucoup d'argent, il a fait gagner beaucoup d'argent, mais il a jamais sacrifié un certain niveau de production et de qualité musicale.
Votre livre s'appelle « L'élève et le maître », essai sur l'épanouissement artistique, je l'ai dit. Vous considérez que c'est pas seulement aux musiciens que ça s'adresse, mais aux artistes en général, même d'ailleurs à ceux qui ne le sont pas forcément, mais qui vont se produire devant un public pour la première fois. Comme le chapitre sur le trac, ça c'est toujours intéressant. Vous l'avez, vous, le trac, alors, justement ?
Je ne l'ai plus. Je l'ai eu un petit peu quand je suis monté sur scène pour la première fois quand j'étais enfant, et je m'en suis défait assez vite, mais parce que j'ai réfléchi. Il y a des mécanismes à mettre en œuvre, il y a une réflexion à avoir sur la raison pour laquelle on monte sur scène, c'est aussi lié à l'ego, à la peur d'être jugé. Donc il y a plein de façons de se défaire de ça.
Vous dites surtout dans ce chapitre qu'il y a une légende qui court à cause d'un mot. D'ailleurs, un mot que je pensais, faut dire que les bons mots, on les attribue souvent à différentes personnes. Je pensais que c'était Louis Jouvet. Vous l'attribuez à Sarah Bernard. Peu importe, cette fameuse phrase qu'on entend régulièrement dans ce métier, ne vous inquiétez pas, le trac, quand quelqu'un dit je n'ai pas le trac, vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Et comme cette phrase a été colportée, c'est vrai qu'au fil des années, on en a fini par conclure que c'était bon d'avoir le trac. Vous vous dites, bah non, c'est pas bon d'avoir le trac.
Non, c'est pas bon du tout, parce que de toute façon, ça empêche d'être en pleine possession de son instrument, ça empêche de bien chanter, de bien jouer, ça paralyse les muscles. Et puis surtout, c'est qu'il y a une confusion initiale, c'est d'imaginer que le trac est une bonne chose, parce que c'est en étant stressé ou en étant, tétanisé un petit peu qu'on va donner une bonne prestation. Et en fait, c'est confondre la motivation et la concentration et le stress. Alors ça n'a rien à voir. On peut être détendu, comme sont les grands concertistes classiques, et être vraiment au sommet de son art, concentré, donner le meilleur de soi-même, mais sans avoir peur. Quoi. Ce ne sont pas des énergies qui sont compatibles.
Clémentine Célarier va intervenir.
Pardon, je comprends ce que vous dites. Et peut-être aussi le trac, ça peut être une espèce de courant électrique qui n'est pas forcément négatif, et pour avoir envie de bien faire.
Mais ça s'appelle l'adrénaline.
Et de dépasser. Voilà, alors, l'adrénaline à ce moment-là. Mais je comprends ce que vous dites, parce que c'est vrai que la peur, c'est nul. Quoi. Mais
pour
et voilà, je trouve que le trac, ça peut être quand même un truc qui excite quand même. Enfin, je veux dire, bon, pas sexuellement.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend, mais la plupart des chanteurs ou des artistes, même s'ils montent avec une petite piqûre, ils sont contents. C'est vrai qu'il y a une excitation, il y a une décharge d'adrénaline.
Oui.
Mais on entend très souvent, j'étais un petit peu stressé, puis ça allait mieux au bout de 5 minutes, tout de suite, je suis passé à autre chose. C'est difficile de faire un concert total en étant complètement stressé, à cœur du désolé.
C'est un livre qui s'adresse surtout aux jeunes artistes, aux jeunes musiciens qui vont pouvoir tirer des leçons de votre expérience, parce que vous avez accompagné de nombreux artistes au piano pendant des années. Vous avez vous-même un trio de jazz. Vous venez d'ailleurs de sortir un nouvel album qui s'appelle Fling. On peut peut-être d'ailleurs, pendant qu'on se parle, écouter juste, parce que c'est une chanson très célèbre que vous avez repris façon de jazz. C'est la fameuse chanson de Johnny. Vous pouvez me dire laquelle d'ailleurs?
C'est Que je t'aime.
Que je t'aime.
C'est une gageure. Je me suis fait ce plaisir de reprendre cette chanson en l'arrangeant à ma façon, en jazz.
Et donc, grâce à cette expérience et à cette carrière déjà longue, vous donnez ces conseils à travers votre livre. Et vous parlez des critiques aussi. Et vous dites, les critiques, c'est pareil, il faut savoir les accepter. Et il faut parfois plutôt retenir les mauvaises que les bonnes.
Oui, parce qu'il peut y avoir dans la critique positive, il peut y avoir une forme de complaisance. Il faut savoir d'où parle la personne, quel est son intérêt à formuler certaines critiques. Et c'est selon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a des bonnes et des mauvaises critiques, mais disons que c'est quelque chose qu'il faut surtout anticiper, sur quoi il faut réfléchir. Et il y a beaucoup de jeunes musiciens ou d'artistes, ça peut être dans le théâtre, on a n'importe quel art, en fait, qui se lance dans une production sans anticiper le fait qu'à partir du moment où on s'expose, on va être jugé. Et ça, c'est quelque chose, si on l'a pas un petit peu anticipé, si on ne s'est pas demandé comment ce qui allait se passer, ça peut faire mal un petit peu quand même. Hein.
Vous parlez de l'apprentissage aussi, et pour un musicien, il faut apprendre à jouer lentement. C'est le premier conseil.
Très lentement. Très lentement.
Pourquoi très lentement ?
Ben parce qu'en fait, c'est une façon d'être sûr de connaître son texte. C'est une façon aussi d'aider les muscles à apprendre une œuvre. Et c'est une façon, si vous voulez, la lenteur, c'est un révélateur. C'est-à-dire que la vitesse, c'est un cache-misère, mais la lenteur permet vraiment de mettre la lumière sur tous les petits défauts, tous les petits pièges, les petites imperfections qui pourraient revenir justement hanter l'artiste, c'est valable pour le comédien, pour n'importe qui, au moment de monter sur scène ou de, je sais pas, de faire une prise pour... En studio ou n'importe où, quoi.
À l'occasion de la sortie de votre album, vous serez en concert au Sunside à Paris du 12 au 14 mars avec votre trio de jazz. Et un dernier conseil que vous donnez, moi ça m'a amusé, c'est dans le chapitre épanouissement de l'artiste, du musicien, vous écrivez au passage complexe, certains élèves n'ayant jamais fréquenté un conservatoire considèrent parfois que leur technique sera toujours moins bonne que celle de leurs collègues ayant suivi, eux, un cursus classique et sont victimes d'une espèce de complexe d'infériorité académique. Inutile de tourner autour du pot et de chercher à les détromper, ils ont raison. Ça m'a beaucoup fait rire.
Bah oui, mais le message le plus important, ça c'est pour la blague, mais c'est vrai que quand on étudie le répertoire classique, on est obligé de prendre du temps pour étudier la technique, le son, la pédale. Il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire quand on s'intéresse uniquement au langage et à l'harmonie. Mais le message le plus important, quand même, pour compléter, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par l'académisme et les institutions pour rencontrer de bons profs et travailler le répertoire. C'est important.
L'élève est le maître. C'est pas l'élève et le maître. Hein. L'élève est le maître. Un essai sur l'épanouissement artistique, c'est chez H&O Éditions. C'est signé Étienne Guéraud. Et c'était le livre du jour. Merci.